Rendez-vous sur Mars. Chapitre 1.
Madame Wakefield,
fit une voix qui pénétrait sa conscience sans l'éveiller pour autant.
Madame Wakefield.
Les yeux clos, Nicole tenta de se rappeler où elle était. Elle se déplaça et la mousse se répartit différemment pour assurer son confort. Lentement, elle exhuma des bribes d'informations de sa mémoire.
Le Nouvel Éden, Dorama, le retour vers le système solaire, n'était-ce qu'un rêve?
Elle ouvrit les paupières. Une silhouette penchée vers elle acquit progressivement de la netteté. Sa mère, en tenue d'infirmière.
Madame Wakefield, vous devez vous réveiller et tout préparer pour le rendez-vous.
Nicole était en état de choc. Où se trouvait-elle? Que faisait sa mère en ce lieu? Elle se souvint.
Libiote, maman est un des 5 modèles d'androïdes. Et les Anawiti Asso sont les spécialistes de la remise en forme.
Sa mère mécanique l'aida à s'asseoir dans le sarcophage.
Où sommes-nous? La phase de décélération est terminée et nous pénétrons dans votre système. Nous nous placerons en orbite autour de Mars dans 6 mois.
Nicole put constater que les dispositifs chargés de stimuler ses muscles avaient empêché leur atrophie. Elle posa le pied sur le sol et bâilla.
Comment vous sentez-vous?
Sans qui l'Anawiti Asso? On pouvait lire son numéro de série sur l'épaule droite de son uniforme.
Pas trop mal. Pas trop mal. 017.
Ce robot était une copie conforme de sa mère. Avant l'appareillage, elle et Richard avaient vu tous les prototypes, mais seuls les Benita Garcia étaient alors opérationnels. Les autres androïdes avaient été construits et testés pendant la traversée. Elle admirait le travail des artistes raméens quand elle entendit des pas et se tourna vers une deuxième Anawiti Asso.
009 a été également chargé d'assister aux procédures d'initialisation,
expliqua 017. Richard s'éveilla plus rapidement que Nicole, mais les Tiasso durent l'aider à s'extraire de son sarcophage. Visiblement ravi de revoir son épouse, il l'étreignit et l'embrassa avant de la dévisager longuement.
« L'écoulement du temps n'a pas altéré ta beauté, »
fit-il avec un sourire moqueur.
« Tes cheveux ne sont pas totalement gris. Je discerne encore quelques mèches noires ici et là. »
Elle sourit à son tour, heureuse d'entendre le timbre de sa voix.
« Au fait, combien d'années avons-nous passé dans nos cercueils ?»
lui demanda Richard.
« Je ne me suis pas encore renseigné. Te réveiller était pour moi une priorité. »
Il se tourna vers les Tiasso.
Belle maman, pourriez-vous répondre à cette question? Vous avez dormi 19 années relatives,
répondit 009.
Relative?
Répéta Nicole.
Le temps ne peut se mesurer que par rapport à quelque chose, ma chérie. 19 années se sont écoulées à bord de Rama, mais cela ne s'applique qu'à... Laisse tomber. Je ne suis pas suffisamment éveillé pour suivre un exposé sur la relativité. Tu le reprendras au cours du dîner. Il est plus urgent de décider dans quel ordre nous réveillerons les enfants.
Je suis aussi impatient que toi de les voir. Mais ne pourrions-nous pas les laisser dormir quelques heures de plus? Nous avons à régler un tas de questions, procéder aux préparatifs du rendez-vous, parler des mesures à prendre pour combler le retard que les gosses ont pris dans leurs études et, pendant qu'on y est, nous offrir une nouvelle lune de miel. Cette suggestion était sensée. Il n'avait fait aucun projet, tant les impondérables étaient nombreux.
Entendu. Mais je tiens à m'assurer qu'ils sont en bonne santé.
Elle se tourna vers une Tiasso qui lui dit
« Tous les systèmes de surveillance le confirment. »
Nicole reporta son attention sur Richard. Il avait certes vieilli, mais moins qu'elle n'aurait pu le supposer.
« Ne devrais-tu pas avoir de la barbe ?»
demanda-t-elle soudain.
« Nous avons rasé les hommes hier pendant leur sommeil, expliqua Tiasso 009. Nous avons également coupé vos cheveux et procédé à votre toilette, conformément au programme.
Les hommes ?
Pensa Nicole déconcertée.
Mais oui, les garçons sont devenus des adultes.
Elle prit la main de Richard et le guida vers le sarcophage de Patrick. Ce qu'elle vit sous le hublot du caisson la sidéra. Le visage de son fils s'était allongé et avait perdu son air poupin. Elle le fixa sans mot dire pendant plus d'une minute.
« Il a entre 16 et 17 ans »,
précisa 017.
« Et Monsieur Benjamin O'Toole est toujours son aîné d'un an et demi. Le vieillissement a été ralenti pour chacun de vous, mais dans des proportions différentes. Quand nous parlons de l'âge de Monsieur Patrick O'Toole, nous nous référons naturellement à son horloge interne. C'est une moyenne établie à partir de facteurs tels que sa croissance physique, sa maturité et les transformations de son métabolisme. »
Ils allèrent voir les autres enfants.
« Où sont passés mes bébés ?»
gémit Nicole, après avoir constaté qu'Ali était désormais une adolescente.
« L'aigle nous avait avertis, » lui rappela Richard.
« Savoir ce qui va se passer est une chose, et en voir le résultat en est une autre. Je ne suis pas une de ces mères qui s'étonnent un beau jour de constater que leur progéniture a grandi. Bien qu'ils aient un corps d'adulte, nos enfants ont mentalement et socialement 10 ou 12 ans de moins. Comment pourrons-nous les préparer en 6 mois à côtoyer leurs semblables ?
Avait-elle refusé de croire ce que disait l'aigle lorsqu'il leur parlait de leur avenir ? Peut-être, mais ce n'était qu'un fait incroyable de plus dans une existence inimaginable.
Je risque de ne pas pouvoir assumer mon rôle de mère. Pourquoi n'ai-je pris aucune disposition avant notre départ ?
Pendant qu'elle se colletait avec de telles pensées, Richard bavardait avec les Tiasso qui répondaient à toutes ses questions. Leur capacité tant physique que mentale l'impressionnait. Tous les biotes ont-ils des banques de mémoire aussi complètes ? Demanda-t-il au milieu de la conversation.
Seuls les Tiasso ont les dossiers médicaux de votre famille, répondit 009. Mais nous avons tous accès à de nombreuses informations qui seront en partie purgées de notre esprit après le premier contact avec d'autres humains. Tout ce qui se rapporte à l'aigle, au point nodal et à ce qui s'est passé avant votre éveil s'effacera. Les Tiasso ne conserveront que vos fichiers médicaux.
Restez-vous en liaison avec l'aigle ?
Voulut savoir Nicole.
Non,
répondit 017.
L'aigle, ou un autre représentant de l'intelligence nodale, se tient certainement informé du déroulement de notre mission, mais Rama est autonome depuis son appareillage. Nous serons livrés à nous-mêmes tant que nous n'aurons pas atteint nos objectifs.
Nue devant le miroir en pied, Cathy s'admirait. Un mois avait passé depuis son réveil, mais son corps était encore une nouveauté pour elle. Elle aimait se caresser, surtout entre les seins dont cette stimulation enflait les mamelons. C'était encore plus agréable la nuit, quand elle se livrait à des attouchements plus intimes qui la faisaient gémir de plaisir. Elle avait demandé des éclaircissements à sa mère, qui s'était visiblement sentie gênée.
La masturbation est un sujet délicat dont on évite généralement de parler,
avait-elle répondu. Restait Ali, mais elle ne semblait pas s'intéresser à ces choses.
Elle ne doit pas avoir éprouvé ce que je ressens,
avait conclu Cathy.
Puis-je espérer que tu libéreras bientôt les lieux ?
Cria sa cadette derrière la porte. Elles avaient des chambres individuelles, mais une salle de bain commune.
Tu peux venir ?
Ali entra, pudiquement drapée d'une serviette de toilette. Elle jeta un coup d'œil à sa sœur, qui s'étudiait toujours devant le miroir, et alla pour faire un commentaire. Mais elle se ravisa et monta dans le bac de la douche. Cathy l'observa à travers la porte transparente, puis se tourna à nouveau vers la glace pour comparer leurs anatomies. Cathy préférait son visage et son teint plus clair, mais pas sa silhouette.
Deux semaines plus tard, elle leva la tête de l'écran sur lequel elle avait regardé de vieilles photos de mode pour demander à sa mère
« Pourquoi est-ce que je ressemble à un garçon ?»
La génétique est un sujet bien plus complexe que ne le supposait Gregor Mendel.
Nicole prit conscience que sa fille n'avait pu comprendre ses propos et rit avant d'ajouter
« Chaque individu est une combinaison unique des caractéristiques de ses géniteurs qui sont codés dans des molécules appelées des gènes. Ces derniers peuvent s'assembler selon 1 milliard de possibilités et c'est pour cela que nous sommes tous différents. »
Cathy fronçait les sourcils et Nicole comprit qu'elle avait espéré une réponse d'un autre genre.
« Quoi qu'il en soit, tu as tort de te croire masculine. Je te qualifierais plutôt d'athlétique. »
« J'aimerais ressembler à Ali, »
dit Cathy en désignant sa sœur, qui étudiait dans un angle de la pièce.
« Son corps est plus gracieux, et ses seins sont encore plus gros et ronds que les tiens. »
« Ali a une jolie silhouette, mais la tienne est aussi belle. »
Nicole se replongea dans sa lecture. Elle croyait la conversation terminée.
« On ne voit pas beaucoup de femmes comme moi dans ces vieilles revues, »
insista Cathy, en désignant l'écran du lecteur de cubes de données.
Tu sais, maman, je crois que l'aigle s'est trompé en réglant mon sarcophage. J'ai dû recevoir des hormones destinées à Patrick ou à Benji.
Ma chérie, tu es telle que tes gènes t'ont programmé à devenir lors de ta conception. Tu as du charme et de l'intelligence, et ta vie serait plus agréable si tu pensais à tes atouts plutôt qu'à des imperfections imaginaires.
Elles avaient souvent eu des conversations de ce genre depuis leur éveil. Cathy avait l'impression que sa mère ne faisait aucun effort pour la comprendre et s'en tirait par des pirouettes du genre
« Il n'y a pas que ça qui compte dans la vie ».
Lorsqu'elle ne l'exaspérait pas en vantant les mérites d'Ali en disant
« Elle est une si bonne élève »
ou
« Elle sait se rendre utile sans qu'il soit nécessaire de lui demander quoi que ce soit »
ou encore
« Pourquoi n'es-tu pas aussi patiente qu'elle avec Benji ?» Avant, il n'y en avait que pour Simone. À présent, seule Ali compte pour elle.
Se dit un soir Cathy, après s'être couchée. Elle avait eu un accrochage avec sa sœur, et leur mère l'avait naturellement tenue pour responsable de l'altercation.
Je dois me faire une raison. Nous n'avons aucun atome crochu, maman et moi.
Ses doigts errèrent sur son corps pour stimuler son désir. Elle soupira d'impatience.
Pour ça, au moins. Je n'ai besoin de personne.
Rama n'était plus qu'à 6 semaines de voyage de Mars.
Richard ?
Fit Nicole qui ne pouvait s'endormir.
Cathy m'inquiète. Tous les enfants font des progrès, mais elle me donne du souci.
Qu'est-ce qui te tracasse ? Demanda Richard en se redressant sur un coude.
Son attitude. Elle est égoïste et elle s'emporte souvent. Même contre Patrick, qui lui voue pourtant un véritable culte. Nous avons constamment des accrochages, et elle passe bien trop d'heures enfermée dans sa chambre.
Il est normal qu'elle s'ennuie.
C'est désormais une jeune femme qui devrait sortir avec des garçons, affirmer son indépendance. Mais elle n'a ici personne de son âge, et nous la traitons parfois comme une gosse de 12 ans.
Il se pencha vers Nicole pour ajouter « Elle a toujours été exaltée. L'ennui... » C'est qu'elle me ressemble.
Tu canalises ton énergie pour réaliser tes projets, alors qu'elle l'utilise pour tout détruire. J'aimerais que tu lui parles, car je crains qu'elle nous pose de sérieux problèmes quand nous rencontrerons d'autres humains.
Que voudrais-tu que je lui dise? Que la vie n'est qu'une partie de plaisir? De quel droit devrait-on lui interdire de se réfugier dans son monde imaginaire? Il est certainement bien plus intéressant que celui-ci.
Il n'y a rien de passionnant pour elle dans le Nouvel Éden tel qu'il se présente actuellement. J'espérais pouvoir compter sur ton soutien. J'ai besoin de ton aide. Il n'y a que toi qu'elle accepte d'écouter.
Entendu, fit Richard avec irritation. Demain, je l'emmènerai faire du ski nautique. Elle adore ça. Et j'en profiterai pour lui demander d'être un peu plus attentionnée envers le reste de notre famille.
Parfait. C'est excellent,
dit Richard en terminant la lecture du devoir de Patrick. Il arrêta le bloc-notes électronique et regarda son fils. Tu as rapidement assimilé l'algèbre. Quand d'autres humains arriveront, tu pourras pratiquement suivre les cours de l'université, en maths et en sciences tout au moins.
Maman se plaint que j'ai beaucoup de retard en anglais. Elle dit que mes compositions sont celles d'un petit enfant. »
Nicole entendit ces propos et sortit de la cuisine.
« Mon chéri, Garcia 041 affirme que tu ne prends pas cette matière au sérieux. Je ne te demande pas de combler tes lacunes du jour au lendemain, mais je ne voudrais pas que tu sois gêné devant tes semblables. Je préfère les maths et les sciences. Notre Einstein croit qu'il pourrait m'enseigner le calcul infinitésimal en seulement 3 ou 4 semaines, si je n'avais pas le reste à étudier. »
La porte d'entrée s'ouvrit sur ses sœurs qui entrèrent en trombe. Cathy arborait un large sourire.
« Je sais que nous sommes en retard, mais nous avons passé une journée formidable. »
Elle se tourna vers Patrick.
« J'ai piloté toute seule le canot sur le lac Shakespeare. Nous avions laissé le Garcia sur la berge. »
Sa cadette ne partageait pas son enthousiasme et Nicole lui demanda
« Ça va, ma chérie ?»
Ali se contenta de hocher la tête sans ouvrir la bouche.
« Le plus fantastique, c'était de croiser notre sillage à toute allure, » disait Cathy. « Bam, bam, nous bondissions d'une vague à l'autre. J'avais l'impression de voler.
Ces bateaux ne sont pas des jouets, » fit remarquer Nicole avant de leur faire signe de passer à table.
« Qu'aurais-tu fait si l'embarcation avait chaviré ?»
Ils s'assirent.
« Les Garcia nous auraient secourus. Il y en avait 3 sur le rivage. En outre, nous avions des gilets de sauvetage, et tu oublies que je sais nager. »
« Pas ta sœur. Elle aurait eu très peur si elle était passée par-dessus bord. »
Cathy alla pour protester, mais Richard intervint pour changer de sujet de conversation. Tout s'était tendu ces derniers temps. Rama était en orbite autour de Mars depuis 1 mois et il n'avait aucune nouvelle de la délégation terrienne qui était censée venir les rejoindre. Le repas terminé, ils allèrent dans le petit observatoire que Richard avait aménagé pour observer la planète rouge. Ils avaient accès aux caméras externes du vaisseau, mais pas au système de surveillance interne. L'aigle avait été inflexible sur ce point, qui leur transmettait de magnifiques images de Mars. Ce fut avec fierté que Benji désigna les volcans de la région de Tarsis, le vaste réseau de gorges de Valles Marineris et le secteur de crise où le premier viking s'était posé plus de 2 siècles plus tôt. Une tempête de sable se formait au sud de la station Mutch, cœur de la grande colonie martienne, abandonnée après le grand chaos.
« Que se passera-t-il s'ils ne viennent pas au rendez-vous ?»
demanda Cathy.
« Sois franche avec nous, maman. Nous ne sommes plus des gosses. »
Nicole décida de ne pas relever le défi contenu dans la voix de sa fille.
« Nous attendrons 6 mois sur cette orbite. Si personne ne vient, nous savons seulement que Rama mettra le cap sur la Terre. S'il faut mettre en œuvre le plan d'urgence, des instructions nous seront transmises en temps voulu. »
Ils s'intéressèrent aux vues de Mars qui apparaissaient sur le grand écran mural.
« Où est la Terre ?»
voulut savoir Benji. « C'est le monde suivant en direction du Soleil, » expliqua Richard. « Rappelez-vous, je vous ai montré l'alignement planétaire sur mon ordinateur. »«
C'est pas ce que je voulais dire, »
fit lentement Benji.
« Je veux la voir. »
Cette demande était facile à satisfaire. Richard avait souvent accueilli sa famille dans son observatoire, sans jamais penser que les enfants pouvaient s'intéresser à ce point bleuté. Elle n'est guère impressionnante vue de si loin. Il localisa sa planète d'origine et fit apparaître son pâle reflet que tous fixèrent avec une attention qui le surprit.
« C'est leur monde ?»
se dit Nicole.
« Même s'ils n'y ont jamais posé le pied. »
Des souvenirs envahirent son esprit et elle observa à son tour la lumière visible au centre de l'écran. La nostalgie l'assaillit, un violent désir de revoir les paysages de la Terre. Des larmes brouillaient sa vision quand elle alla étreindre ses enfants.
« Où que nous puissions aller, »
leur dit-elle,
« cette petite tache bleue sera toujours notre véritable foyer. »